Curriculum Vitae.
Bonjour mesdames et messieurs, c'est Danny Benz au microphone. Soyez les bienvenus à cette émission. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec un homme qui ne craint pas de se retrouver en zone de conflit pour voir ce qui s'y passe et d'en témoigner ensuite dans les médias. Depuis 20 ans, il est photoreporter pour le quotidien La Presse, récipiendaire de nombreux prix en nomination 4 années consécutives pour le prestigieux concours national de la photo de l'année. Ce sont les projets documentaires à caractère sociaux qui l'intéressent. Martin Tremblay, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
C'est un plaisir, merci de l'invitation.
Alors, on va un peu parcourir le livre de votre vie avec vous comme guide. On commence votre histoire dans la vallée de la Matapédia en Gaspésie, une très belle vallée.
Oui, super belle vallée, belle région à laquelle je suis vraiment encore très attaché. Mon frère y vit toujours. J'ai eu beaucoup de famille là-bas. C'est une famille, une vieille famille presque fondatrice de la ville d'Amqui, des deux côtés, là, les Leclerc et les Tremblay. Donc, très fier de mes origines.
Oui, une belle, belle région. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre famille?
Oui, dans le fond, mes grands-parents du côté paternel, mon grand-père, arrière-grand-père, c'était des gens qui étaient dans l'industrie, on peut pas dire le commerce des chevaux, chantiers, forestiers. Mon grand-père aussi, Tremblay, avait une grande invention de l'époque, le snowmobile, avait acheté des snowmobiles pour faire les premières lignes d'autobus. Dans la vallée, c'était quand même révolutionnaire. Ça permettait aux gens de se transporter d'un village à l'autre, surtout des villages vers Amqui, qui était la ville centre, d'avoir des services. Puis ça, on trouve ça quasiment, on le dit en souriant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était incroyable comme ouverture. C'était durant l'hiver en Gaspésie, surtout dans la vallée de la Matapédia, vous savez, c'est là qu'ils fabriquent la neige au Québec. Il y en a beaucoup. C'était merveilleux parce que ça permettait aux médecins, à la poste puis au commerce de continuer durant la saison hivernale qui est très longue, qui est encore plus longue à cette époque-là. Et mon grand-père maternel, Origène Leclerc, lui, c'était un grand commerçant d'animaux. Donc, il achetait les animaux à Montréal, il remplissait des trains, puis il amenait ça du Bas-Saint-Laurent jusqu'au Nouveau-Brunswick. C'est lui, il vendait vraiment beaucoup il faisait beaucoup le commerce, là. C'était un des plus grands commerçants d'animaux. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi. Il faut dire aussi que mes grands-parents sont nés à la fin des années 1800. Fait que je suis le plus petit fils de mes grands-parents, donc le plus jeune, donc ça fait en sorte qu'étant né en 1973, j'ai des grands-parents qui étaient nés en 1896, 1898, donc ils m'ont fait connaître une autre époque qui est vraiment enrichissante.
Parce que vous les avez connus, vous avez eu la chance de les connaître.
Ah oui, absolument, mais plus que ça, comme mon père travaillait sur les chantiers de la Côte-Nord, j'ai habité avec mes grands-parents, avec ma mère et mes grands-parents qui avaient une grande maison à Amqui. Fait que j'ai habité avec eux, puis avec ma grand-mère, même quand je déménageais à Québec, l'été, je retournais à Amqui, puis je vivais avec ma grand-mère. Fait que je les ai vraiment bien connus, ouais.
«
Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans des prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, paye le bon Dieu et l'homme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de rêve. Un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Moi mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi mes souliers en préfèrent les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez et pardonner.
Un grand classique, s'il en est un, de Félix Leclerc, Martin Tremblay. À quoi ça vous fait penser, cette chanson?
Ah ben moi, c'est toute mon enfance. C'est justement dans la maison de mes grands-parents Leclerc. Et d'ailleurs, c'était le coup. Félix Leclerc est le cousin de mon grand-père, donc c'était pour mon grand-père et ma famille une très grande fierté, là, Félix Leclerc, puis je pense pour tous les Québécois, bien entendu, mais particulièrement par ce lien familial. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais il est venu à la maison de mon grand-père à une autre époque. Et pour moi, donc c'est une maison que tous les gens qui connaissent Amqui, c'est une maison qui est très centrale. Amqui, c'est la maison de mon grand-père. Et ils avaient un grand salon avec un piano où ma mère qui joue du piano aussi, puis plusieurs personnes dans la famille jouaient toujours cette chanson-là comme hymne familial. Fait que, à chaque fois que je l'écoutais avec vous en ce moment, puis... Ça ne peut qu'être des beaux souvenirs, tout ça. Ouais.
Vous avez accepté, Martin Tremblay, de me parler d'un aspect de votre vie familiale qui est plus difficile. Vos parents, père et mère, souffraient de la dépendance à l'alcool.
Oui, effectivement. Puis, ça a été une difficulté, mais je dois dire aussi, ça m'a formé. Puis dans le travail que je fais en ce moment, j'ai une très grande empathie envers les gens. Puis les gens, ils se sentent. Puis, tu sais, je fais souvent des sujets difficiles, des PJ, des sujets sociaux lourds, si on veut. Mais mon passé fait en sorte que je suis plus facilement capable de connecter avec les gens qui subissent des grandes difficultés. Je peux mieux comprendre ce qu'ils vivent. Puis, eux autres ici, ils sentent que je les juge pas, tu sais, parce que c'est une réalité que j'ai moi-même connue.
Oui. Mais est-ce que ça provoquait beaucoup de déséquilibre dans la maison?
Évidemment, comme tout enfant de parents alcooliques, ça provoque des déséquilibres, ça provoque... toutes sortes de difficultés que j'ai dû surmonter au cours de ma vie. Mais malgré tout ça, je pense que j'en sors plus fort que affaibli. Pour ça, je peux en parler aujourd'hui, ça me dérange pas. Puis je trouve que c'est sain de parler de ce genre de choses-là de façon positive, même si dans ma jeunesse, particulièrement à l'adolescence, ça a été très difficile. Aujourd'hui, c'est un outil dans mon coffre d'outils de la vie, là. C'est un outil que j'utilise régulièrement de façon personnelle surtout, puis à l'occasion de façon professionnelle. Fait que je pense que non, ça fait partie de ma formation de vie.
Ouais. Vous parlez de l'adolescence. Vous avez déménagé au moment de l'adolescence pour venir jusqu'à Québec, c'est ça?
Oui, parce que dans la vallée, comme dans toute la Gaspésie, dans les années 80, c'était très difficile économiquement. Mon père avait travaillé, lui, toute sa vie sur les chantiers du Nord, là, donc Baie James, Churchill Falls. Il a été, sur vraiment plusieurs chantiers hydroélectriques. Ça fait en sorte que quand ces grands chantiers-là se sont terminés, puis qu'en plus, dans la vallée de la Matapédia, comme en Gaspésie, il n'y avait presque pas de travail en construction. Là, on a déménagé à Québec puis pour moi, ça a été fantastique de déménager à Québec. Puis j'ai grandi, fait mon adolescence à Québec, puis ça m'a vraiment ouvert plein de portes.
Ouais. Donc, vous avez fait votre cours secondaire ici à Québec. Est-ce qu'il y avait des activités de l'école ou parascolaires qui vous intéressaient davantage?
Absolument, parce que là, c'est là que ça m'a ouvert sur les arts. Le théâtre, puis ça m'a amené évidemment à faire de la photo, puis à vouloir faire le métier de photographe. Mais c'est vraiment, oui, j'ai fait du théâtre, j'ai fait le journal étudiant, la radio étudiante, j'ai tout fait. J'ai coché toutes les cases, j'ai fait du sport, j'ai été dans le conseil étudiant, président de l'école en secondaire 5. J'étais très actif avec plein, plein d'amis, naturellement. Mais c'est sûr que tout ça, puis j'avais des amis qui venaient de familles qui étaient plus ouvertes aux arts qu'en Gaspésie, mettons. Fait que ça a fait en sorte que le métier de photographe, le travail de photographe, devenir un artiste, c'était devenu possible pour moi.
Ouais. Là, je voudrais qu'on parle un petit peu du prochain choix musical que vous avez fait, parce que ça correspond pas tout à fait à la ligne musicale de Radio Galilée.
Là, ça va brasser. Là, préparez-vous, là.
Alors,
Je vous amène ailleurs, là.
oui, ça c'est pour nous permettre de constater quels étaient vos goûts musicaux quand vous étiez adolescent. Parlez-nous de ce qu'on va entendre.
Ben là, il faut savoir là que la pièce qu'on va entendre, c'est un mouvement musical qui a commencé dans les années 90, qu'on appelait le grunge. Et là, c'était une cassure avec ce qui se faisait avant, qui était la musique très pop, très générique, très léché. Là, on va là complètement ailleurs. Tous nos auditeurs en ce moment qui connaissent le grunge savent là où je vais aller. Pour ceux qui l'ont moins connu, c'est un rock très brut, très brutal, mais qui est extrêmement populaire dans mon groupe d'âge à l'époque, en 1990. Fait que à vous de juger maintenant.
Alors, le groupe qu'on va entendre, c'est un groupe américain qui s'appelle Pearl Jam, donc confiture de perles, si je peux traduire. Et puis la pièce, c'est Alive, donc vivant, c'est bien ça?
Exactement.
Alors, on y va. Wow, you were such a home alone lady, sir. Vous êtes bien à l'antenne de Radio Galilée et c'est notre invité Martin Tremblay, photoreporter au journal La Presse, qui a fait ce choix musical pour illustrer ce qui le faisait vibrer, lui et ses amis, au temps de l'adolescence, donc de la musique grunge. Martin Tremblay, la famine en Éthiopie avait eu lieu en 1985, on se rappelle de ce mouvement justement de la chanson avec le We Are the World. Quand je vous parle de cet épisode de l'Éthiopie, qu'est-ce que ça vous dit?
Ben, c'était là comme enfant, je pense que à ce moment-là, je prenais conscience que sur la planète il y avait des gens qui vivaient pas comme moi en Gaspésie ou à Québec, qui avaient pas cette chance-là. Puis c'était ma première fois aussi que je prenais conscience des inégalités que la planète vivait. Et ça a été un grand choc pour moi de constater qu'il y avait des enfants qui pouvaient mourir de faim pendant que moi j'avais une abondance comme tous les enfants canadiens, québécois. Tu sais, faut se dire, là, juste n'importe qui au Québec vit dans le 1% mondial. T'sais, on a une chance incroyable. Mais en Afrique, eux autres, ils étaient à l'inverse. T'sais, ils étaient au bas de ça. Puis ça a été pour moi le début de ce que je voulais devenir dans ma vie. Quelqu'un qui allait être conscient des autres. Quelqu'un qui allait prendre action pour aider les autres, puis je savais pas comment, mais c'était le début d'un questionnement personnel.
Et puis vous disiez tout à l'heure que la photo, ça faisait déjà du chemin dans votre esprit pour l'avenir, mais vous avez quand même choisi d'étudier en commerce et administration.
Oui, parce que je me faisais tout le temps dire par mes parents, par tout le monde, il n'y a pas de job en photo. Ce sera pas payant. Tu vas mourir de faim. Fait que tout ça, ça avait une influence. Puis, comme disait Yvon Deschamps, tu sais, une job, c'est t'aider puis un bon boss. C'était une pensée qui était quand même très, très commune là, au Québec. C'était de se trouver un bon emploi puis un bon fonds de retraite pour le reste de sa vie. Puis c'était bien correct, là, je comprends. Fait que la job de devenir un artiste, un photographe, c'est sûr que c'était pas dans mon plan. C'était mon plan A, mais c'était pas... J'hésitais à faire ça, dans le fond.
Mm-hmm. Et comment est-ce que vous y êtes arrivé à la photo? Par exemple, vous avez été directeur photo. Vous avez commencé par être directeur photo avant d'être employé comme photographe?
Non. Durant les études en administration, j'ai fait un stage dans une usine de bois d'œuvre. Puis c'est là que j'ai fait hey, je veux pas faire ça de ma vie. Là. Je trouvais ça quand même le fun tout ça, mais là, j'ai vraiment fait non. Là, je vais tout risquer. C'est comme un coup de poker. Là. J'ai dit à mon âge, je peux tout risquer. Je m'essaye en photo. Fait que j'ai complété ça, puis là, j'ai décidé de m'en aller en photo, de faire le cours en photo, puis de me lancer advienne que pourra, comme on dit. Puis durant ces années-là, j'ai compris que je voulais pas devenir un photographe de façon générale. Je voulais devenir un photojournaliste. Je voulais raconter des histoires. Tu sais, c'est en lien avec mon idée d'aider les autres. Là, c'est la guerre en Yougoslavie aussi. Puis je voyais le travail des photographes là-bas. Puis je voyais aussi les victimes. Puis je me disais, pour moi, ça avait un sens. C'était ma façon d'aider les autres. C'était ma façon de participer à la société. Puis aussi, j'étais très attiré de l'autre côté par voir l'histoire en direct, voir les choses par moi-même, puis de les interpréter moi-même. Fait que les deux, ça s'est réuni en photo. Puis là, j'ai fait, c'est ça que je veux faire, puis rien d'autre. Puis je vais tout faire pour que ça fonctionne.
Et ça a fonctionné parce que vous avez eu une première mission de partir en Afghanistan. Vous étiez en compagnie de la journaliste Michelle Ouimet, c'est ça?
Exact. Fait qu'assez rapidement, j'ai vu que la meilleure place pour faire ce travail-là, ça allait être au journal La Presse à Montréal. J'ai déménagé à Montréal pour ça. Puis assez rapidement, ils m'ont recruté. J'ai fait ma place. Ça s'est pas fait facilement, mais assez rapidement, du moins. Puis Michel Ouimet, qui était une grande reporter à ce moment-là, reporter qui faisait des reportages à l'étranger pour nos auditeurs là qui sont des lecteurs de La Presse l'ont sûrement connu. Fait que Michel, au début, j'étais là voir, je dis je vais aller en Afghanistan avec toi. Elle a fait jamais de la vie, jamais. Moi, je travaille avec personne, c'est pas vrai, j'arrête jamais, elle voulait rien savoir. Fait que j'ai fait, comme on dit, un pitch de vente là, pour aller avec elle. Puis elle m'a dit non. Mais là, elle a parlé avec son chum, puis son chum, il a dit, Michel, tu devrais donner une chance à ce jeune-là. Fait que le lendemain, elle m'a fait venir à son bureau, puis elle m'a dit, bon là, tu vas venir avec moi, là. Fait que je suis parti, même si j'étais employé de la presse voulait pas m'envoyer comme employé. Ils m'ont dit, tu vas y aller à la pige. Fait que j'ai payé toutes mes affaires, puis la presse m'achetait des images, mais jamais suffisamment pour payer tout mon voyage, mais je m'en foutais complètement. Je savais que c'était une opportunité en or. Puis en plus, Michel, elle m'a vraiment pris sous son aile, puis elle m'a tout montré. C'est pas compliqué, là. Elle m'a montré à faire du reportage, à devenir un journaliste plus qu'un photographe, comment on travaille sur le terrain, comment que... Puis, tu sais, j'étais comme une éponge, j'ai pris tout en note, puis c'est encore la technique que j'utilise aujourd'hui, 20 ans plus tard. Puis, tu sais, je le dis toujours à Michel à quel point elle a changé ma vie. Puis, c'est... Des fois, tu sais, dans la vie, t'as juste besoin de rencontrer une personne comme Michel pour transformer ta vie en quelque chose d'autre. Puis cette personne-là, ça a été Michel Ouimet pour moi.
Ouais. Martin Tremblay, vous êtes allé donc en Afghanistan. Est-ce qu'il y avait des choses, des situations difficiles à photographier?
Ben, j'ai été deux fois en Afghanistan. Dans le fond, j'ai été une première fois avec Michel Ouimet en 2003. Puis là, il faut se rappeler, là, les talibans contrôlaient le pays depuis 10 ans. C'était un régime de terreur, là. Surtout pour les femmes, là. Entre autres, en Afghanistan, on peut pas voir les images, on est à la radio, mais je vais la décrire. J'ai une photo d'une voiture de taxi à Kaboul où les hommes sont assis dans le véhicule à l'intérieur, puis les femmes ne peuvent que s'asseoir dans le coffre parce qu'ils n'ont pas le droit d'être à l'intérieur. Une femme n'a pas le droit de conduire un vélo, pas le droit de conduire un véhicule, encore moins de... Et donc, c'est un régime de terreur. Le 11 septembre 2001, on se rappelle ce qui est arrivé à New York, l'attentat. Les Américains ont chassé les talibans de l'Afghanistan. Moi, j'arrive dans un contexte où là, il n'y a plus de talibans en Afghanistan. Et là, les gens qui n'avaient plus le droit à toute forme d'art, à toute reproduction humaine, étaient noirs, là. Nous, on arrive là, puis c'était un grand moment de liberté qu'ils obtenaient soudainement. Et d'ailleurs, c'était aussi avec l'arrivée des premiers appareils photo numériques. Aujourd'hui, tout est numérique, mais on pouvait voir l'image derrière le boîtier. Eux, la plupart des gens que je photographiais, je leur montrais leurs photos derrière que j'ai prises derrière mon boîtier. C'était la première fois qu'ils se voyaient en image de leur vie. C'était fameux. On s'est promené dans tout le pays. C'était un contexte sécuritaire relativement facile, mais pendant qu'on était là, il y avait une mission de paix canadienne et ça a été le premier attentat qui a été fait en Afghanistan suite au départ des talibans. Ça a tué des Canadiens, puis on était là. Puis ça a été le début d'une nouvelle guerre, une guerre dans laquelle je suis retourné en 2007 en étant correspondant de guerre intégré aux forces, aux troupes de l'armée canadienne du Royal 22e Régiment à Québec.
Et est-ce que vous pouvez nous dire la façon dont vous vous situez dans votre code d'éthique? Est-ce qu'on diffuse ou non la violence?
Oui, c'est une bonne question. Oui, on la diffuse, mais pas n'importe comment, puis pas à n'importe quel prix. Ça doit être pertinent. Parce que je vais vous donner un exemple extrême. Une photo d'un cadavre à terre, dégoulinant de tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est vraiment pertinent pour faire comprendre aux lecteurs de la presse la guerre en Afghanistan? Non. Par contre, on peut montrer de la violence pour faire comprendre et saisir l'importance que et ce qui se passe, les victimes que ça fait, Puis c'est pas en mettant des photos très neutres qu'on va sensibiliser les gens et faire comprendre la violence. Parce que en étant reporter, moi, je suis témoin. Puis si devant moi, c'est extrêmement violent, mais mon témoignage doit refléter ça parce que ça veut dire que je serais pas honnête non plus envers les lecteurs. Mais on va pas essayer de les choquer parce que si je choque les lecteurs de la presse un matin puis qu'ils lisent pas l'article, mais là, je suis passé à côté de mon objectif. Fait que c'est comme la balance des deux.
Ouais, c'est ça. Est-ce que il faut que vous combattiez une peur intérieure du danger qui est présent? Est-ce que vous avez l'adrénaline du danger qui est toujours là?
Oui, une grande peur. Moi, je suis très peureux là, là-dedans. Ça vous paraît probablement paradoxal de voir que je couvre plein de conflits puis que je suis super peureux. Mais oui, mais c'est une peur que je réussis à contrôler puis à me servir. Parce que ça, c'est comme mon guide là. C'est lui qui me ramène tout le temps à dire, hey, attention là, ouf, c'est baisse pas la garde, va pas trop loin. Mais je vais toujours assez loin. Je suis comme pas mal un photographe. Canadien qui vole plus loin, malgré que j'ai peur. Oui, je dois combattre ça intérieurement. L'adrénaline, oui, c'est vrai qu'elle est là, mais tu sais, c'est souvent, on entend souvent dire que c'est une drogue, etc. Fort probablement, mais moi, j'ai jamais senti que c'était tant une drogue que ça. L'adrénaline, c'est épuisant, là. Quand moi, je sors d'une zone de combat, là, je sens toujours une grande fatigue. Ça m'énerve, cette adrénaline-là, parce que c'est elle, là. Mais en même temps, j'y retourne. C'est pas à cause du shoot d'adrénaline que ça me donne que je retourne. Je retourne parce que, comme, tu sais, j'ai été 2 fois en Ukraine, j'y retourne parce que je vois les victimes puis je vois l'importance que ce conflit-là a puis les dégâts que ça fait puis c'est ça qui me motive à y aller. Mais à chaque fois que j'y vais, ça m'affaiblit psychologiquement puis ça, je le sais que plus les années passent, moins l'excitation du moment que ça m'apporte, j'en ai de moins en moins, puis c'est de plus en plus difficile. Puis la dernière fois que j'ai été en Ukraine, ça m'a pris, tu sais, j'ai pas été traumatisé ou quoi que ce soit, mais ça m'a pris beaucoup de temps à m'en remettre. C'était très lourd.
C'est là-dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui, Martin Tremblay. Merci beaucoup déjà pour votre présence sur nos ondes. Je remercie également Mario Blouin qui a trouvé les musiques et Berthold Bernier qui est à la réalisation technique de cette émission. C'est Danny Benz au microphone et je vous dis à bientôt.
Vous venez d'entendre Curriculum Vitae,